Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Vous êtes dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on s'intéresse à notre vie quotidienne mais aussi à votre santé, votre bien-être. C'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Mélanie, quel est le programme ?
Eh bien Julia, ce matin, on va commencer en se posant cette question, comment éviter que l'argent ne brise notre couple ? On va donc mélanger deux sujets très sensibles, les finances et l'amour. Faut-il évoquer d'ailleurs les questions d'argent dès le début de nos relations, comment gérer un conjoint très dépensier ou à l'inverse un peu trop radin, comment bien partager les dépenses du foyer. On vous donnera des questions très pratiques, des réponses surtout avec notre invité. Nous recevrons Héloïse Boll, fondatrice de la société de conseil en gestion de patrimoine Osaï et compagnie et autrice du livre « Les bons comptes font les bons amants » aux éditions du Cherche Midi.
Ensuite, à 11h35, il y aura notre dossier santé du jour dans lequel on va mettre en lumière ce matin une méthode pour éviter de nombreuses maladies. C'est la méthode des 4 S, un guide simple pour rééquilibrer sa vie. En gros, on va vous apprendre à bien maîtriser votre sphère alimentaire, votre sommeil, votre stress et votre sport. Le docteur Christian Recchia, qui sera avec nous, le dit, la prévention doit devenir notre philosophie.
Ensuite, Julia, dès midi, comme tous les jours, ce sera notre séquence tendance, la séquence tendance de ce magazine entouré de trois de nos chroniqueurs pour la gastronomie. Le chef pâtissier Jeffrey Cagne sera aux manettes. Ce midi, il mettra les agrumes à l'honneur avec tous ses conseils pour faire de même chez nous, bien sûr. Ensuite, Sophie Braffman, notre chroniqueuse mode, a décidé aujourd'hui de nous parler de lingerie, mais de lingerie pour les femmes touchées par le cancer du sein. Il y a du très beau, du très doux et du très sensuel. Je préfère vous prévenir.
Et enfin, pour finir ce tour de table des tendances, on donnera la parole à Philippine Darblay, notre experte art de vivre. Elle va nous faire découvrir des capsules de café d'un nouveau genre.
Europe 1.
Bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 bien sûr et donc ce matin dans votre magazine Bien-être on va tenter de répondre à cette question, comment éviter que l'argent ne brise notre couple ?
Oui, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être du mal à aborder tout ce qui est question financière avec votre conjoint, c'est peut-être même un sujet tabou dans votre couple. Alors on va voir ensemble comment ouvrir le dialogue sur ces sujets avec sa moitié. On vous donnera aussi des conseils très pratiques, comptes communs ou pas, comment répartir les choses entre amoureux. On va y revenir très vite, mais avant cela, lui, quand on parle d'argent, ça ne lui pose aucun problème. Et il a été justement vous interroger pour nous sur ce sujet, c'est Clément Lannou. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Effectivement, on va parler d'amour et d'argent, les deux choses que tout le monde rêverait d'avoir. Mais les deux ensemble, parfois, c'est dur à gérer. Donc j'ai décidé de commencer avec un petit peu de poésie et avec carrément une citation.
L'argent n'est qu'un nombre et les nombres ne se terminent jamais. S'il te faut de l'argent pour être heureux, ta quête du bonheur ne se terminera jamais. Albert Einstein.
Ah, c'est
bon, une citation.
Qui,
hein. Eh oui, bah, sur l'argent, j'avais pas 10 000 citations. L'autre, c'était celle-ci. Hein.
Je dis argent trop cher, trop grand. La vie n'a pas de prix. Ouais. Jean-Louis Aubert, téléphone.
Voilà.
Génial.
C'était
un philosophe.
Donc, effectivement, l'argent, ça peut être une grosse source de conflit dans un couple. Il existe évidemment des solutions pour éviter de s'embrouiller. C'est la question que j'ai posée aux Français. Comment il faut faire ?
Pour éviter que l'argent ne brise un couple, après, je pense pas que ce soit bien bien compliqué. Il suffit de bien discuter et se mettre en accord avec son partenaire.
Il faut partager de façon relativement équitable sans faire de compte au centime près. Voilà, après, c'est une question d'équité et de confiance.
Et il est important que chacun puisse avoir un petit peu comme de l'argent de poche, je vais dire, une somme dédiée pour pouvoir se faire plaisir sans que l'autre ne porte de jugement.
La belle organisation, et c'est un hasard, mais c'est que des réponses féminines. Donc j'ai été également interroger les hommes. Ce monsieur a une première solution.
Alors moi, je voulais pas en arriver là, mais j'ai craqué. On a pris un compte commun, et depuis ça va beaucoup mieux.
On sent la souffrance dans la voix du compte commun. Je peux plus faire ce que je veux avec mon argent. J'ai quelqu'un à la maison qui m'assagit. Il existe évidemment une deuxième solution. Elle est un peu plus violente, celle-ci.
Moi, je ne vis pas avec mon conjoint. Comme ça, pas de problème d'argent.
Ah ouais, c'est trop facile.
C'est peut-être la solution. Donc, vous l'aurez compris aujourd'hui, j'ai pas trouvé de solution miracle. Je compte sur vous pour m'en dire plus.
Merci beaucoup, Clément. On vous retrouve demain avec un autre reportage. Mais restez avec nous.
Oui.
On va entrer tout de go dans ce sujet sensible. possible. Comment éviter que l'argent ne brise notre couple? On va donc éviter des drames avec vous, peut-être. Héloïse Boll, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc la fondatrice de la société de conseil en gestion de patrimoine Oseille et compagnie, auteur de la newsletter Prends l'oseille et du livre Les bons comptes font les bons amants aux éditions du Cherche Midi. Alors on y va. Est-ce qu'à votre avis, en France, en tout cas, on parle assez d'argent dans le couple? Est-ce qu'on en parle assez de cet argent et du couple? Est-ce qu'on nous éduque à ça finalement?
Non, on n'est pas très éduqué à ça, et il y a particulièrement chez les femmes ancrée l'idée que si on en parle un peu trop, on va passer pour une montre religieuse ou pour une femme intéressée. Donc il y a quand même une grande incitation à avoir l'air désintéressé dans tout, y compris dans la façon dont s'agencent les finances dans un couple. Bon, c'est valable pour les femmes, c'est valable pour certains hommes. Et dans tous les cas, on a un peu de mal à en parler parce qu'on a souvent peur que ça génère des conflits et que,
mais c'est
et
justement
que l'un
en
et l'autre,
parlant,
on est l'air intéressant.
C'est en parlant en couple que ça justement désamorce les conflits. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben, je suis entièrement d'accord. C'est très, très important d'en parler et d'en parler assez tôt avant que ça devienne un sujet de malentendu. En fait, plus on en parle tôt et plus on se met d'accord vite sur certaines choses.
Vous, c'était au premier rendez-vous, je crois.
Ah bah oui, directement, effectivement, on a coupé l'addition en 10, on a calculé
qui
a mangé quoi, combien tu gagnes. Non, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a plus de, on va dire, de disputes dans les couples qui ne gagnent pas les mêmes sommes d'argent? Ou si c'est sensiblement la même chose, c'est plus simple à gérer? C'est ce qu'on pourrait croire, mais pas forcément.
Il y a plus matière à inéquité et à situation vraiment très très déséquilibrée au bout d'un moment dans les couples où les salaires sont, les revenus sont très déséquilibrés. De la même façon qu'il y a aussi un risque de d'écart très très important quand les patrimoines de départ sont très déséquilibrés. Il faut faire attention finalement, plus vos revenus sont à peu près égaux ou en tout cas dans le même ordre de grandeur, et plus ça va être simple, et plus au contraire il y a un déséquilibre, plus malheureusement ce déséquilibre peut se creuser encore plus si vous faites pas ce qu'il faut pour corriger les choses.
Alors à quel moment selon vous il est important finalement d'en parler dans le couple, de ces questions, enfin d'exposer sa vision des finances, de la gestion des choses? Peut-être pas au premier rendez-vous, je plaisantais sur Clément Lanoux tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un moment stratégique, c'est quand on s'installe ensemble a priori, ou est-ce qu'il vaut mieux aborder ça même un peu avant?
Bah, c'est même mieux de l'aborder un petit peu avant de s'installer, en fait. Parce que si vous vous installez ensemble, ça veut dire que vous allez payer un loyer ensemble. Déjà, vous mettre d'accord sur un appartement ou une maison à trouver et sur un montant de loyer. Donc, il va falloir de toute façon amorcer cette discussion assez vite.
Mais ça veut dire, Héloïse, qu'on peut demander à son partenaire assez rapidement combien il gagne?
Bah, je trouve pas ça vraiment sale, en fait, de poser la question au bout de quelques mois, enfin quand ou quelques semaines, même quand on est assez proche, je vois pas vraiment où est la difficulté.
Ouais,
en
donc
fait.
On n'attend pas le mariage non plus, quoi, en fait. Hein,
non,
c'est pareil.
Alors si vous attendez le mariage, en fait, déjà. Ça veut dire que vous n'aborderez pas la question de faire un contrat ou pas un contrat. Donc c'est trop tard, parce que vous aurez finalement pris une décision qui sera une non-décision sur votre régime matrimonial. Et puis non, c'est très embêtant. Il vaut mieux à partir du moment où vous sentez qu'une relation est quand même suffisamment sérieuse pour que vous alliez habiter ensemble, envisager peut-être d'avoir une famille, il faut y penser.
Et dites-moi, Héloïse, si au bout de quelques semaines de rendez-vous, on s'aperçoit que le gars, il est hyper dépensier, au contraire hyper rat, est-ce que ça se change, ou est-ce qu'il faut fuir si on n'est pas sur le même tempo?
J'ai pas le sentiment, pour voir les gens évoluer dans la durée, qu'un comportement très très radin ou très très dépensier, mais particulièrement très très radin, se change dans la durée. En fait,
un gros radin, il devient pas un
tour que
hyper généreux
plutôt,
après. Quoi, ouais.
Et les retours d'expérience, c'est plutôt que la radinerie, elle s'accentue avec le temps et qu'elle devient de plus en plus compliquée à gérer pour l'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut partir en courant. Ça veut dire qu'il faut s'organiser quand on vit avec un gros radin pour ne pas se retrouver
dans des
systématiquement
situations
à la merci de son autorisation pour telle et telle dépense, et pour ne pas avoir systématiquement des comptes d'apothicaire invivables.
11h30 sur Europe 1.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être, feel good. Ici, on tente chaque matin de vous faciliter la vie jusqu'à 12h30. Et donc ce matin, on tente ensemble de répondre à cette question un peu tabou. Comment éviter que l'argent ne brise notre couple? On y répond avec Héloïse Boll, fondatrice de la société de conseil en gestion de patrimoine Oseille et compagnie, autrice de la newsletter Prends l'oseille et du livre Les bons comptes font les bons amants aux éditions du Cherche Midi. Bon, en gros, une véritable spécialiste de la question. Alors Héloïse, l'argent est une source de conflits fréquente dans le couple, on l'a vu, mais est-ce que ça peut aussi mener jusqu'à la séparation ou au divorce? Est-ce qu'en gros ça peut être la cause principale de certaines séparations?
Bien sûr que ça peut être la cause principale de certaines séparations, notamment dans les situations où vous avez un déséquilibre qui s'est installé et qui s'est amplifié au fil du temps, parce que finalement, l'exemple le plus fréquent, c'est des salaires très déséquilibrés et puis un couple qui a fait 50-50 dans les dépenses du début jusqu'à la fin.
C'est pas sympa.
Et puis finalement, dans ces situations-là, celui qui gagne moins n'a pas d'épargne, celui qui gagne plus a beaucoup d'épargne.
De quoi se faire plaisir,
et puis surtout il met de l'argent de côté, il a un patrimoine alors que celui ou celle, et c'est plus souvent celle qui gagne moins, n'a pas mis d'argent de côté et n'a pas épargné, et à la fin vous avez un déséquilibre entre les patrimoines qui est très fort.
Oui.
Et à un moment vous pouvez quand même légitimement vous demander, même si l'argent ne compte pas bien sûr, mais vous pouvez vous demander si une personne qui vous laisse vous appauvrir tandis qu'elle s'enrichit,
où est l'amour
est une
dans
personne
tout ça
qui tient vraiment à vous, à votre sécurité financière et à votre bien-être en réalité. Donc c'est normal que ça génère des séparations.
J'aime bien comment vous parlez. J'aimerais pas être en bisbis d'argent avec vous. Hein. Pas commode.
Non, pas laisser faire, je pense. Pour qu'un couple fonctionne, en tout cas, côté argent, c'est mieux d'être d'accord sur quoi dans le détail, je veux dire. Est-ce qu'il faut être d'accord au moins sur la façon d'épargner, sur la façon de se faire plaisir, la façon de dépenser? Quels sont les indispensables qu'il vaut mieux partager, on va dire?
Faut être d'accord sur la façon dont on répartit les dépenses. Encore une fois, le 50-50, et c'est pas moi qui le dis, c'est le code civil, hein, dans le mariage et dans le PACS. Quelque chose qui se pratique pas, qui est inéquitable. En fait, il faut faire au prorata des revenus. Il faut être d'accord sur cette répartition des dépenses. Il faut être d'accord un
petit peu. Celui qui gagne plus devrait dépenser plus, c'est ça?
Oui, en tout cas pour participer aux dépenses de la famille.
Du foyer.
Si vous gagnez 30% de plus que votre conjoint, vous payez 30% de plus des dépenses.
Normalement, c'est ça l'idée. Et il faut être d'accord aussi un petit peu sur des montants, tout simplement. En fait, quel est le budget qu'on alloue à notre logement, à notre alimentation, à peu près, quel est le budget qu'on alloue aux vacances, à des postes qui peuvent être importants quand on a la chance de pouvoir prendre des vacances, par exemple. Eh bien, en fait, tous ces sujets-là doivent a priori récolter une forme de consensus. C'est quand même plus simple que de se trouver avec quelqu'un qui a un côté très flambeur quand vous-même vous avez tendance à faire assez attention. Et puis sinon, si justement il n'y a pas de réconciliation possible sur ces sujets-là, il faut trouver une espèce de terrain d'entente à mi-chemin entre les deux pour que personne soit perdant.
Dites-moi Héloïse, quand ça devient sérieux, quand ça s'installe ensemble tout ça, c'est quoi votre préconisation? C'est le compte commun ou chacun son compte?
Le compte commun simplifie beaucoup les choses parce que justement, il évite de faire des comptes d'apothicaire tous les jours, la baguette par-ci, la boîte de petits pois par-là.
On peut avoir les deux
Le compte commun ainsi que deux comptes séparés, bien sûr. Un compte commun, en fait, vous faites un virement l'un et l'autre au début du mois et vous en parlez plus.
À hauteur de ses moyens, ça serait ça la bonne formule. C'est pas mal. Et vous préconisez plutôt qu'il n'y ait qu'une personne du couple qui s'occupe des comptes ou on peut s'y mettre à deux?
Ah non, c'est très important de s'y mettre à deux.
C'est rare, pour le coup. Moi, je connais beaucoup de couples autour de moi et comme ça chez moi aussi.
Il y a l'expert comptable du couple.
Où il y en a un qui s'en occupe pour les deux. Hein. Ça, c'est rare.
Oui,
hein.
Mais c'est une vraie mise en danger de celui ou de celle qui ne s'en occupe pas en réalité. Ouais. Parce que quand vous ne savez pas ce qui se passe dans les finances de votre couple, vous êtes à la merci donc d'une personne qui n'est pas forcément de mauvaise foi, mais qui peut faire n'importe quoi, qui peut épargner de façon très risquée alors que vous-même, vous avez une grosse allergie au risque, qui peut aller contracter des dettes sans vous en parler parce que...
Là, vous décrivez le pire.
Le pire, mais en fait, si vous n'en parlez pas et si vous ne savez pas ce qui se passe, vous pouvez avoir de très grosses surprises.
Ça fout les chocottes, Clément.
Est-ce qu'on peut décrire le meilleur du coup, celui qui, je ne sais pas, va mettre de l'argent en cachette dessus pour faire des surprises, ça doit exister aussi.
Vous avez déjà vu ça, vous ?
Ça va arriver, ça va arriver, c'est l'homme moderne.
Mais c'est trop mignon, Clément Lanoux. Mais non, mais c'est vrai que c'est souvent source de conflits, l'argent. Et pour les gros achats en commun, je pense notamment à la voiture, aux appartements, même un frigo ou un beau canapé, je crois que vous conseillez de conserver les factures d'achat. C'est pourquoi, en fait ?
Alors, bah, c'est tout simplement pour pouvoir revendiquer la part qui est à vous. Alors, si
donc
c'est
on
un
fait
canapé,
ça pour se préparer à la séparation, en fait.
Pour préparer la paix, Mélanie, il faut préparer la guerre. C'est pas moi qui l'ai dit.
D'accord.
Ouais, je suis assez d'accord. Non,
en réalité, est dans le positif ce matin.
Non, mais on n'est pas dans le positif. Vous avez aujourd'hui, si vous vous mariez, 40% de chances de vous séparer.
Soyons honnêtes.
Vous avez vraiment, une vraiment envie de vous dire, je suis systématiquement dans les 60%. Vous êtes hyper confiante. Ouais. Et puis, par ailleurs... Il y a plusieurs façons de séparer un couple. Il n'y a pas que le divorce ou la séparation, il y a le deuil. Et quand vous avez un deuil dans votre couple, l'un des deux qui disparaît, là, vous ne composez plus avec la personne avec laquelle vous avez vécu, vous composez avec ses héritiers. Et les héritiers, vous ne savez pas s'ils sont de bonne foi ou de mauvaise foi. Et
il faut se prémunir.
Donc, il faut se prémunir. Il ne faut pas être angélique, en fait, sur ces sujets-là, parce que l'argent, c'est central dans votre vie. C'est pas, je veux dire, ça ne doit pas être un but en soi, sauf que si vous n'avez pas d'argent, que vous êtes obligé de vous loger mal, de manger mal, de pas sortir, de pas vous faire plaisir, c'est
ça
pas
suffit.
Drôle.
Ah oui.
Exactement. Voilà. Bon, imaginons, ça devient vraiment très très sérieux notre couple, on veut se marier ou se paxer, ou alors on veut rester en union libre, vous en pensez quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et si on veut se marier, c'est quoi le régime matrimonial pour que chacun soit protégé ?
Alors, en fait, il n'y a pas de régime matrimonial idéal. Ce qui est très important, c'est de comprendre que dans le mariage, il y a 5 ou 6 régimes différents. Il y en a 2 principaux, communauté et séparation. Dans le PACS, il y a 2 régimes différents. L'union libre, c'est encore autre chose. En fait, ce qui est très important au moment où vous décidez de vous marier ou de vous paxer ou de vivre ensemble en restant en union libre, c'est de comprendre les incidences de votre régime. Et par exemple, aujourd'hui, les gens qui se marient, à 80%, ils se marient en communauté, qui est le mariage par défaut. En réalité, c'est comme s'ils signaient un contrat de conditions générales qui fait 30 pages, sans avoir lu les 30 pages. Et quand on leur dit à la sortie, alors, madame, monsieur, en fait, tout ce que vous avez fait depuis 20 ans, 15 ans,
c'est moi qui l'autre.
Ça se divise par 2, ils tombent de leur chaise parce qu'ils ne le savaient pas. Donc, ce qui est important, quand vous choisissez un régime matrimonial, c'est de savoir à quoi vous vous engagez.
Mais à la limite, si on ne l'a pas su, qu'on a signé comme ça, on s'est marié dans Communauté des biens, et puis ben, est-ce qu'on peut changer d'avis ? Puisque maintenant, on vous a écouté sur Europe 1 ce matin, on se dit, zut, je vais peut-être changer les choses, mettre un contrat 10 ans après, enfin, est-ce qu'on peut changer les choses ?
Vous pouvez changer les choses quand vous avez déjà une communauté de biens qui est engagée. Ça vous coûte cher.
Ça veut dire quoi, par exemple ?
Ça veut dire, par exemple, que si vous avez acheté un appartement, eh bien, on va, avant de vous marier sous le régime de la séparation, on va liquider la communauté chez un notaire, et donc ça va coûter un pourcentage du bien de tout ce que vous avez dans votre communauté.
Ah oui.
Donc
ça
fait reculer beaucoup de gens.
On peut changer, mais ça coûte cher.
Coûte cher. Ah oui. Si vous n'avez rien, ça coûtera beaucoup moins cher, forcément.
Exactement.
Et donc aujourd'hui, il y a un truc très important à savoir, c'est que vous pouvez... Avant, il fallait 2 ans avant de changer de régime matrimonial. Aujourd'hui, vous pouvez changer le lendemain de votre mariage.
Vous réveillez, vous dites « Zut, je me suis trompée !»
Non, mais vous imaginez,
souvent,
vous mariez à
souvent,
Vegas.
Souvent, en fait, les mairies imposent un délai avant le mariage pour avoir fait le contrat. Si vous êtes hors délai, et ben, la semaine d'après votre mariage, vous allez chez le notaire et vous changez. Vous n'aurez pas de communauté de biens très, très riche, puisque vous n'aurez pas épargné en une semaine des sommes astronomiques.
Donc, c'est temps de
et
changer.
Ça vous coûtera pas cher.
Dites-moi, donc, si je comprends bien, le régime qui protège le mieux en cas de séparation, c'est celui de la séparation de biens.
Ça dépend.
Faites un contrat.
Ça dépend, c'est celui de la séparation. Si les deux ont continué à travailler et ont épargné. Si vous vous mariez en séparation de biens, où on fait compte séparé, patrimoine séparé, et qu'au bout de 2 ans de mariage, vous avez arrêté de travailler pour vous occuper de vos enfants et que vous avez complètement renoncé à votre carrière,
là, on regrette
vous partez
la communauté.
Avec pas grand-chose. Ouais. Ouais.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Love, 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 love.
Alors, pas selon Héloïse, mais selon les Beatles, l'amour ne peut pas s'acheter. Non, je sais pas, on va voir avec vous. Écoutez, Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en train de tenter de répondre à cette question. Comment éviter que l'argent ne ruine notre couple? Et celle qui nous apprend donc à mieux gérer nos portefeuilles amoureux, c'est vous, Héloïse Boll, fondatrice de la société de conseil en gestion de patrimoine Oseille et compagnie. Alors, quand on parle des finances d'un couple, il y a forcément le mot impôt qui surgit à un moment. Et désormais, avec le prélèvement à la source, est-ce que ça a facilité, selon vous, les choses pour les conjoints?
Oui et non. En réalité, aujourd'hui, vous êtes prélevé à la source. Donc là encore, on revient au couple où les revenus sont très déséquilibrés entre les deux. Vous avez un taux qui est par défaut un taux commun. Et donc, si le couple est très imposé parce que, par exemple, monsieur a un très gros revenu et madame a un tout petit revenu, eh bien, madame, sur son revenu, va être prélevée au taux qui est le taux du couple.
Elle va prendre cher,
et
quoi.
Et donc, on va lui prélever un fort pourcentage. Alors qu'avant, dans ces situations-là, souvent, eh bien, celui qui avait le plus gros revenu alimentait le compte qui était débité pour les impôts. Aujourd'hui, donc, vous avez un taux important qui s'applique aux deux salaires, donc au salaire élevé et au petit salaire. Donc c'est un peu disproportionné. Mais il y a une façon de résoudre ce sujet. On opte pour un taux qui s'appelle le taux individualisé. Ah. Et là, en fait,
c'est tout simple à faire sur Internet. Hein. Moi, je m'en suis occupée.
Il faut juste se mettre d'accord.
Ou alors, si on est le seul à gérer les impôts, bah, on le fait et puis l'autre ne le sait pas.
Voilà. Et l'autre le découvre.
C'est ça.
Ça veut dire que le taux individualisé, si je comprends bien, chacun paiera les impôts à la source à la hauteur de ses revenus. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
On choisit, non? On peut mettre 6 et 12, c'est 5 et...
Non, ce sont les impôts qui vont calculer, en fait, en fonction de vos revenus, un taux adapté pour chacun.
D'accord. Bon, d'accord. Ça, alors là, on s'est mariés. Mais ça devient encore plus sérieux, Héloïse. On a fait des enfants ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de régime matrimonial? Il faut tout recommencer depuis le début? Et sur les comptes, faut tout remettre à plat?
Faut tout remettre à plat parce que ça implique une nouvelle organisation budgétaire, en effet. Et parfois, ça implique que certains ou certaines prennent un petit congé parental, passent à mi-temps, etc. Et alors là, c'est carrément dangereux pour celui qui prend un mi-temps, pour celui qui ralentit sa carrière, et souvent pour celle. Et donc là, il y a un vrai manque à gagner pour celui-là. Et donc, c'est un manque à gagner qu'il faut chiffrer parce que, en termes de retraite, ça coûte cher. En termes de carrière et d'évolution de carrière, ça coûte cher. Donc, de salaire futur, c'est très compliqué. Et en fait, si vous faites vous-même le calcul, si vous le chiffrez et si vous le projetez sur plusieurs années, voire sur plusieurs dizaines d'années, vous allez vous-même être complètement estomaqué du montant qui va s'afficher.
Donc, ça veut dire qu'il faut présenter la facture à son conjoint en disant « Tu as vu ce que ça me coûte ?»
Ça veut dire qu'il faut qu'il ait conscience de ce que vous perdez, quoi, c'est ça. Ce que vous perdez, parce que après on va avoir la phrase qu'on entend souvent, mais je t'ai jamais demandé de passer à mi-temps, je t'ai jamais demandé d'arrêter de travailler. Attention à ces situations-là, c'est très très dangereux.
Et puis on peut aussi avoir la femme qui dit je me suis appauvrie pour toi, etc. au moment du divorce. Donc il faut en parler quand ça va encore bien.
Ou l'homme, ça peut être l'inverse aussi. Je le précise quand même parce que ça peut être l'inverse.
Bien sûr, ça peut être l'inverse.
On a des questions donc notamment au 3921, celle de Séverine qui dit comment fait-on dans les familles recomposées? Les questions financières peuvent davantage poser problème. Comment éviter ça? Qu'est-ce que vous conseillez effectivement quand par exemple on a un enfant d'un premier mariage et qu'on veut continuer à le gâter comme on a envie, mais qu'on est en compte commun? Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut conseiller dans ces couples-là?
Alors là, il faut une organisation encore plus stricte. Et puis surtout, il y a la façon dont on dépense l'argent pour les uns, pour les autres. Effectivement, il faut que ce soit équitable entre tous les enfants. Et puis, dans ces cas-là, il y a aussi une situation qu'il faut prévoir, c'est la situation du décès. Parce que très souvent, certains professionnels vous encouragent à faire des donations aux derniers vivants qui protègent le conjoint, le conjoint. Et les enfants des premiers mariages sont souvent complètement lésés par ces contrats-là et par ces dispositions-là. Et donc, en fait, il faut vraiment poser les choses sur la table assez vite en se disant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe si demain je ne suis plus là? Que récupère mon mari ou ma femme? Que récupèrent mes premiers enfants?
Bien sûr.
C'est très important.
Il faut protéger tout le monde. Christelle de Lyon sur Instagram nous demande « Mon mari se lance dans un business et souhaite mettre une partie de notre capital commun. Comment me protéger ?»
La première chose, c'est qu'elle va demander à ce que, si c'est du capital commun, son nom figure dans les statuts de la société et qu'elle soit actionnaire de la société. Et à ce titre, elle pourra assister aux assemblées générales et voter et donner son pouvoir pour la gestion des affaires, etc. Enfin, il n'y a pas de raison qu'elle immobilise son capital dans une société dans laquelle elle n'a absolument pas son mot à dire. Donc ça, c'est très important. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de dispositions à prendre, notamment pour protéger l'immobilier du couple. Ça, ça se traite chez le notaire. On peut isoler la résidence principale, on peut isoler l'immobilier locatif, des biens qui sont exposés à l'activité professionnelle.
Ah, vous voulez dire qu'on peut protéger ces biens s'il y avait par exemple une activité qui périclite, on se protège en perso pour pas tout perdre.
Voilà, pour pas tout perdre.
Une dernière petite question donc sur Instagram d'Alexia. Elle dit « Je suis en train d'écouter l'émission. Mon copain refuse de parler argent. Ce n'est pas encore un problème. On ne vit pas ensemble, mais c'est important pour moi. Je ne sais même pas combien il gagne. Comment en parler sans trop le brusquer ? Un petit conseil amoureux là, et de communication peut-être. »
Je sais pas si en fait c'est malin de parler d'un sujet qui fâche que l'autre refuse d'aborder sans le brusquer en fait. Parce que si vous commencez sur un sujet aussi grave à prendre sur vous et à parler gentiment alors que l'autre fait l'autruche, je vous souhaite bon courage pour les 20 ou 30 ou 40 prochaines années en réalité.
Donc Alexia, réfléchissez bien avant de vous installer, je crois. C'est le message.
Non, et surtout n'ayez pas peur d'en parler cash.
Faut pas que l'argent soit tabou. C'est un peu le résumé de cette émission, Mélanie. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup, Héloïse Boll, d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos auditeurs ce matin. On a pu défricher pas mal de points sensibles pour éviter que l'argent ne ruine nos couples. Pour davantage d'infos, je rappelle votre livre, Les bons comptes font les bons amants, aux éditions du Cherche Midi.
Merci beaucoup, Héloïse. Mélanie, à présent, il est temps de passer à notre deuxième sujet du jour et de prendre soin de nous, de notre santé. On va vous détailler une méthode pour éviter de nombreuses maladies, la méthode des 4 S. C'est notre dossier santé du jour.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Voilà, on va donc accueillir notre deuxième invité aujourd'hui dans ce studio. Il nous dit que la prévention devrait devenir notre philosophie à tous. C'est le docteur Christian Recchia. Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1.
Merci. Vous êtes président du pôle prévention à l'Académie de télémédecine et de e-santé. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Les 4S pour rééquilibrer sa vie aux éditions Humaines Sciences. Alors docteur Recchia, on sait que la médecine actuelle en France, elle réalise des prouesses. Mais selon vous, là où ça cloche, c'est que les médecins aujourd'hui se contente de gérer finalement les maladies et nous-mêmes, on va uniquement les voir, les médecins, quand on souffre de quelque chose. Pourquoi c'est pas l'idéal de fonctionner comme ça ?
Alors en fait, la médecine en France depuis 70 ans a fait des progrès exceptionnels avec des soins qui ont réussi à guérir les patients d'une façon remarquable. Donc il faut honorer cette médecine, mais elle n'est pas suffisante. Ce n'est pas possible de continuer dans cette situation. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, il y a à peine 900 médecins scolaires. Alors que j'ai 65 ans concrètement, lorsque j'avais 5 ans, il y en avait 12 000.
Ah oui.
Il y avait 15 000 infirmières. Chaque médecin était en mesure de dire à papa et à maman, le petit Arthur a un problème de dos, il a un problème d'audition, il a un problème, il doit mettre des lunettes. Nous constatons, aujourd'hui il est dans l'adolescence, il commence à avoir des pieds plats. Donc concrètement l'idée c'est qu'il y avait une continuité de l'observation familiale du médecin et le médecin connaissait les familles. Le médecin généraliste à l'époque était la clé de voûte du système de santé. Mmh. Il y avait une cohérence, la vaccination était une cohésion globale. Donc ce que je veux simplement signaler, c'est qu'au fond, tout ça est une question de bon sens. Tout est une question de bon sens parce que tout existe en prévention, mais personne ne se responsabilise.
Docteur, ce livre, c'est une façon de montrer que l'on peut éviter un tas de maladies grâce à la prévention. Mais de quelle maladie, par exemple, vous parlez ?
Alors évidemment, si vous appliquez cette règle humblement, lorsque j'enseigne à HEC, à Central Paris ou à Normal Sup, concrètement, je dis à mes élèves, concrètement, si vous appliquez savoir manger sans faire de régime, savoir manger équilibré en se faisant plaisir, ce que j'explique dans ce livre. Savoir faire du sport à raison de 4-5 heures par semaine. Mais faire du sport, c'est pas faire de la compétition, c'est se faire plaisir en groupe, entre amis, en couple, en famille.
Quoi d'autre ?
Savoir bien dormir, savoir gérer son sommeil. Le sommeil est réparateur, il est constructeur de neurones. Et savoir ensuite gérer son stress. Le stress est plus toxique que le gras, le sucre, l'alcool et le tabac réunis.
Et il faut bien se rendre compte. On peut éviter quoi comme maladie grâce à ça ?
Nous pouvons éviter, et enfin je réponds à votre question, nous pouvons éviter donc l'obésité et donc les maladies vasculaires, nous pouvons éviter les diabètes, nous pouvons éviter un grand nombre de cancers, nous pouvons éviter des maladies dégénératives. Le message qu'il faut passer à nos auditeurs, c'est qu'au-delà de 55 ans, on continue à se réparer.
Ah oui.
Et au-delà de 55 ans, si vous appliquez tout cela en faisant du sport, vous ajoutez de la vie aux années et vous ajoutez de la réparation tissulaire. Mmh. À 90 ans, on continue à sculpter ses neurones à partir du moment où vous avez ces principes. Et ce n'est pas un principe, je dirais, d'un gourou ou d'une famille de pensée. C'est un principe fondamental. Tout ça est fondé sur mes enseignements à la faculté. C'est de la physiologie. C'est connu depuis 70 ans. Mais tout existe. Mais rien n'est repris correctement.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les 4 S que vous avez un peu évoqué ?
Oui, donc c'est d'abord gérer sa sphère alimentaire.
Sphère alimentaire.
De la terre à la fourchette, de la fourchette aux neurones, il faut se faire plaisir en mangeant.
Deuxième
Ensuite,
S.
Il faut bien dormir. Parce
Sommeil.
Que s'activer dans la journée, il faut bien se réparer la nuit. La nuit répare les neurones. Et ceux qui ne dorment mal sont des personnes qui ont souvent des maladies dégénératives au niveau neuronal. Gérer son stress. Ça, c'est capital.
Vous avez dit, c'est un poison.
C'est capital. Ouais. Il faut faire du yoga, écouter de la musique, lire, se détendre. Et puis ensuite, faire du sport. Et je fais 10 heures de sport par semaine depuis maintenant 50 ans ou 60 ans.
Et vous n'êtes pas stressé ?
Eh bien, je suis moins stressé. Je travaille énormément, mais je suis beaucoup moins stressé. Et effectivement, sur le plan pratique, la question de madame, c'est que nous sommes aujourd'hui vus comme un corps physique. Mmh. Pour moi, pour nous, pour mes maîtres de l'académie qui m'ont, je dirais, formé, forgé, comme Alain Larcan, qui était le président de l'Académie de médecine, eh bien, concrètement, nous sommes un corps physique. Mais bien plus que ça. Nous sommes un verbe être, il faut être mieux, il faut être verbe être plutôt que verbe avoir, être verbe donner plutôt que prendre. Partant, ça vous fait sourire, mais il est évident
que c'est une philosophie.
Nous avons le corps physique qui est arboré avec le corps mental, le corps émotionnel, le corps mnésique, le corps social, le corps projet, pour certains c'est le corps spirituel. Et le vrai problème, c'est que nous ne nourrissons plus du tout les corps que je viens de citer.
Oui.
On ne pense qu'à l'apparence et on ne pense pas finalement au corps mnésique, au corps émotionnel, au corps sensoriel. Et finalement, nous ne savons plus du tout nourrir ces corps. Et rien, je l'ai dit dans le livre, pour être un chef d'entreprise, il faut que ces 7 corps soient parfaitement équilibrés, alignés.
C'est l'équilibre.
Et on ne sait plus. Et qui éduque les enfants pour la nourriture de ces corps ? Ce sont les parents, ce sont les émotions,
c'est
l'empathie, ce sont les échanges. Alors, bien sûr, c'est très loin d'une prévention connue, mais c'est un acte fondateur de penser cela.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de vous, de votre santé physique et psychique également. Alors aujourd'hui, pour y arriver, on découvre le programme du docteur Christian Recchia. Je rappelle que vous êtes médecin et l'auteur du livre « Les 4 S pour rééquilibrer sa vie » aux éditions Humaine Science. On va détailler un peu justement ce programme des 4 S. Le premier S, c'est pour notre sphère alimentaire qu'il faut apprendre à maîtriser. Et vous écrivez que le simple fait de jardiner dans son potager, c'est déjà excellent pour la santé, déjà parce qu'on fait énormément d'exercices. Si, c'est bien ça ?
Eh oui. Mon merveilleux grand-père qui m'a appris à jardiner me montrait des choses simples. Mais par le jardinage, d'abord on apprend l'humilité. On apprend la nature.
On apprend le temps long aussi.
On voit pousser les choses. On apprend le temps long que j'évoque dans le livre. Il ne faut pas se presser. Et puis, on apprend surtout à aller chercher des produits que la nature a réalisés. Mmh. Et dans ces temps conflictuel, c'est bien de réapprendre cela. En plus, le jardinage, c'est une activité physique tranquille, qui détend comme le golf, j'en témoigne. Et concrètement, je dirais que chacun devrait avoir son jardin, même sur un balcon, un quart d'heure sur un balcon, avec des plantes tomates, avec des plantes courgettes, avec un olivier qu'on caresse,
des
avec
herbes
des roses,
aromatiques.
Des plantes aromatiques qu'il est absolument nécessaire d'avoir, même sur un balcon. Eh bien, ça, les plantes aromatiques permettent donc d'éviter le sel. Donc finalement, vous voyez, le jardin, c'est un moyen d'équilibrer les choses. Et je prendrai le jardin. C'est donc des végétaux. Des végétaux, quand vous mangez des végétaux, vous mangez du potassium, et le potassium permet d'excréter le sodium, et ça fait chuter la tension artérielle. Donc, vous voyez, manger des légumes, ça a du sens physiologique.
Et avoir un potager, par exemple, même un tout petit, comme vous le disiez, c'est peu connu, mais quand on va le cultiver, on a moins d'arthrose. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ?
Alors, la conception est très simple. c'est qu'il y a 40 ou 50 ans, quand je n'étais encore pas médecin, je voyais pour la moindre entorse, les gens étaient emplâtrés pendant 6 semaines, et après avoir enlevé le plâtre, ils étaient encore plus malades. Aujourd'hui, on redynamise le plus tôt possible, on revascularise le plus tôt possible. Et le fait de revasculariser permet de réparer plus vite, permet de même éviter l'inflammation, quand c'est bien fait, et là, donc le jardin permet finalement d'empêcher les douleurs. C'est un échauffement comme les autres.
Mmh. Et si on n'a pas de jardin, et si on n'a pas de balcon, on peut aussi privilégier les fruits et légumes bio, j'imagine que c'est mieux, non ?
Eh bien, écoutez, quand on n'a pas de jardin, pas de balcon, on part marcher, plusieurs milliers de pas par jour.
Mais qu'est-ce qu'on mange ?
Alors, et là, ensuite, que mange-t-on ? Donc là, il faut apprendre à acheter. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est, dans un supermarché, il y a 200 000 références produits. Eh bien, concrètement, il y a 80 produits natifs qui servent à nourrir toute la famille. Je reviens sur le jardin, une demi-seconde, permettez. 60 mètres carrés de jardin nourrit une famille de 4 personnes pour l'année pour 250 euros.
Ah oui, donc il n'y a pas besoin d'avoir...
Et je reviens à votre question. Eh bien, soyons très clairs, aujourd'hui, dans un supermarché, allez voir les produits natifs, les produits frais, et le fait est, monsieur, je dis à monsieur, apprenez à cuisiner. Mmh. Aidez madame à cuisiner. Et la cuisine est un élément fondateur. Et quand on a appris à cuisiner, on sait acheter.
D'accord. Bon.
Le second S, c'est pour maîtriser son sommeil. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi le sommeil, on le sait, c'est un pilier de notre santé, mais il se passe quoi la nuit qui est vraiment vital pour éviter les maladies ?
J'aurais voulu, accordez-moi 30 secondes de plus pour préciser que les 1000 premiers jours d'une vie constituent l'architecture d'une vie et la sculpture des neurones. Accordez-moi le principe de dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes hyper stressés, que nous avons des parents veulent, qui laissent passer la télévision aux enfants jusqu'à 22 heures, et le train endocrinien, je suis endocrino, le train endocrinien passe à 20 heures pour un enfant, et quand le train endocrinien passe, l'enfant bâille, il a sommeil, mais sauf qu'il a la télé. Alors il continue, et là il y a une resécrétion de cortisol, un restress,
et il loupe
et quand
le train.
L'enfant, il loupe le train, et quand il va au lit à 22 heures, il n'a pas sommeil. Donc l'enfant a perdu 2 heures de sommeil, et à la fin de la terminale, il a perdu des milliers d'heures de sommeil. Le problème commence là. Mmh. Ensuite, étant étudiant, on le sait, est un désastre. Mmh. Ensuite, vieillir. Vieillir, c'est 55 ans, on perd 1% d'appétit par an et on perd des minutes de sommeil considérables. Donc on a moins envie de dormir, donc on se réveille plus souvent. Ben, ce n'est pas grave, il faut apprendre à gérer son sommeil, c'est ce que j'explique. Et donc, quant à moi je dors très peu, 4-5 heures par nuit, mais je fais des micro-siestes dans la journée. Donc n'ayez crainte, il y a toujours des façons de récupérer. Et quand on fait du sport, alors là je peux vous dire que les jours où vous faites du sport, votre sommeil, vous l'avez sous la couette dès 21h30.
Est-ce qu'on peut parler du stress ? Donc le troisième S, le stress, celui que vous redoutez temps et celui qui est très
qui est
délétère,
pire que le tabac, l'alcool, enfin, vous avez dit
pire
en réunis,
que tout, hein, ouais, ça peut aller loin et provoquer des maladies, lesquelles ?
J'ai toujours souvenir de ma première journée hospitalière avec le professeur Cabrol qui disait « Christian, vous avez fait une thèse sur les EPA-DHA qui réparent les neurones des enfants prématurés et sur les acides gras essentiels que je viens d'évoquer, qui permettent finalement de réparer les micro-vaisseaux, car vous savez que nous avons 7 km de gros vaisseaux, et à l'Institut du Cœur, et le professeur Gangebach et Pavi et Le Prince, on a déterminé le fait qu'effectivement, nous avons 30 000 km de micro-vaisseaux. Ce qui est génial, c'est quand on fait du sport, ces micro-vaisseaux se multiplient. Les gros vaisseaux restent bouchés s'ils sont bouchés, mais vous créez un nouveau réseau. Mais ce qui est cataclysmique, c'est que si vous faites du sport pour créer un nouveau réseau, pour passer de 30 000 à 100 000, par exemple, 2 heures de sport par semaine, vous passez de 30 000 km à 60 000 en un an, ce qui est génial.
Ah oui.
Et en 10 ans, vous allez à 200 000 km. Mais le problème, c'est que si là-dessus, vous avez le stress provoque des perturbations hormonales considérables, avec des effets orthosympathiques, qui finalement provoquent un laminage complet de ces micro-vaisseaux.
Il faut que vous donniez
l'image. Ouais. C'est qu'un micro-vaisseau, c'est une cellule, plus loin, une autre cellule, et une prostacycline qui vient, c'est un vernis qui vient recouvrir ces cellules vasculaires. Et quand les globules rouges viennent s'écraser jusqu'au fin fond de votre pouce pour aller donner de l'oxygène, eh bien, on glisse sur les prostacyclines. Le problème, c'est qu'avec le stress, il n'y a plus de prostacycline et les globules rouges saignent et vous avez des micro-saignements et c'est une catastrophe.
Bon, on a compris.
Donc
le stress,
on évite absolument le stress et on fait du sport. Ça j'ai compris. Mais à partir de quel âge, je dirais, il faut faire du sport de manière pas intensive,
alors,
mais régulière.
Je boucle par le stress. Le stress est non seulement toxique pour les vaisseaux, je viens de vous le dire, mais il est toxique pour le pancréas. Ouais. Il fait sécréter de l'insuline et provoque donc un diabète à long terme. Il provoque des maladies dégénératives gravissimes. Donc le stress est multi-toxique, multifocal.
Ouais. Donc le sport, on fait quoi?
Et donc là, le sport, alors là, soyons très clairs. J'ai un enfant de 9 ans. Il fait 10 heures de sport par semaine.
Voyons.
Et je ne le pousse pas. Mmh. Il est très bien à l'école, Vittorio. Les enseignants me disent, Christian, ces enfants-là, depuis qu'ils font du sport, ont plus 3 points de moyenne générale. Mmh. Le sport apprend l'humilité. Le sport apprend l'effort. Le sport apprend l'objectif. Le sport apprend, bah oui, c'est dur. Bah oui, c'est dur de faire un revers comme Federer. Bah c'est dur d'écrire une dictée sans faute.
Mmh. Mais en France, on ne valorise pas tellement le sport.
Mais voilà, mais en France, j'ai...
On leur fait faire des mathématiques, mais ça c'est important.
La France a un objectif majeur à changer. Et là, je le dis tout droit dans les yeux de Blanquer, puisqu'il m'a déjà reçu pendant quelques temps, et pas mal de temps, en émission. Eh bien, sachez ceci, c'est qu'en fait, il faudrait que les enfants aient des cours, je dirais, des matières principales le matin, et au minimum 2 heures par jour d'activité
tous les jours,
physique.
À l'anglo-saxonne, ouais. C'est comme
exactement.
Ça qu'ils font.
Tout et ensuite, pour nous adultes, pour nous adultes, eh bien, l'adulte, c'est très clair, sport le matin, minimum 5 heures par semaine. Alors, vous me dites, Rekia est toujours excessif. Non,
pas du tout.
C'est un minimum. Mais faire du sport, c'est pas faire de la compétition. C'est se détendre, c'est partir marcher. C'est faire venir en vélo, à vélo. Donc là, je dirais que toutes les solutions sont possibles. Et aujourd'hui, nous avons un encadrement.
Merci docteur d'avoir répondu à nos questions. On a compris en tout cas les grandes tendances de votre programme qui permettraient d'éviter plusieurs maladies. Alors si vous aussi, vous voulez vous lancer, je vous le rappelle, il y a tout dans le livre du docteur Rekia, les 4 S pour rééquilibrer sa vie aux éditions Humaine Science. Merci encore d'avoir été avec nous.
Merci à vous,
docteur Julia, maintenant passons à la partie tendance de Bienfait pour vous avec nos 3 chroniqueurs pour la chronique gastronomie. Tout d'abord, le chef pâtissier Jeffrey Cagne mettra à l'honneur ce midi les agrumes et il y aura bien sûr pour vous une bonne petite recette à refaire à la maison. Et puis Sophie Braffman va nous présenter de la lingerie très belle, très féminine et surtout des soutiens-gorge spécialement conçus pour les femmes ayant un cancer du sein. Et enfin, pour terminer cette table des tendances, on se prendra un petit café avec Philippine Darblay qui nous présentera des capsules de café, justement, mais dernière génération. Tout ça, c'est sur Europe 1.
Europe 1,
11h30.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on partage avec vous chaque jour nos bons plans, nos astuces, toutes ces tendances qui améliorent notre vie à tous. Et on vous en parle jusqu'à 12h30. Alors se faire du bien, je sais pas pour vous, mais pour nous en tout cas, ça passe par le bien manger,
ah,
non
oui.
Julia?
Ah, oui.
Et donc aujourd'hui, c'est le chef pâtissier Jeffrey Cagne qui va nous chouchouter avec des agrumes au menu, c'est bien ça Jeffrey?
C'est bien ça, on va parler d'acidité, on va parler d'agrumes et on va parler un petit peu d'amertume. Et il n'y a que ça de vrai dans la vie.
Et bon. On va manger surtout. Et puis ensuite, ce sera à votre tour, Sophie Braffman.
Oui.
Vous n'êtes pas venue les mains vides, vous non plus. Je vois des soutiens-gorge qui ont l'air. Et des petites culottes,
des surtout. Des soutiens-gorge, des culottes. Alors, on va parler d'Octobre Rose et donc de choix de lingerie. Et vous allez voir que j'ai des parures absolument magnifiques et sexy.
Génial. Et puis, avec. Enfin, on terminera cette table des tendances ce midi avec Philippine Darblay. Je crois qu'on va se prendre un petit café. C'est bien ça, Philippine?
Bah ouais, on finit toute conclusion avec un café, non?
Toujours.
Avec plaisir. Des nouvelles capsules, hein? Génération,
exactement.
C'est ça. Allez, merci Philippine, on vous retrouve dans un instant, mais tout de suite, il est temps de se faire du bien dans l'assiette, dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
On commence donc, comme tous les jours à midi, par la chronique gastronomie de ce magazine. Aujourd'hui, c'est vous, Jeffrey Cagne. Vous allez stimuler nos papilles, ça va piquer, ça va être acide, ça va être amer, enfin je sais pas. On va voir qu'est-ce qu'on va manger de bon alors.
Alors, on va parler des agrumes, parce qu'on arrive sur la saisonnalité des agrumes. C'est vrai qu'on trouve les agrumes toute l'année, mais en fait, il y a une saisonnalité pour les manger aussi. Mmh. Et c'est à partir d'octobre que la maturité des agrumes est bonne pour
pouvoir
manger.
J'ai vu des clémentines ce week-end, mais elles n'étaient pas très, très belles encore.
Et ben voilà, pourtant, on est sur la période de la saisonnalité des agrumes. Et moi, quand je parle agrumes, je parle aussi citron.
Ah,
j'aime
oui,
le citron.
Aussi,
et je trouve que le citron apporte un vrai plus, que ce soit dans la cuisine ou la pâtisserie, et notamment la tarte citron.
Ah, voilà. Dire, mais meringuée ou pas meringuée?
Alors,
c'est toute la question.
Alors moi, je ne l'aime pas trop meringuée parce que je trouve que le meringue apporte beaucoup de sucre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a d'autres manières de faire une tarte citron. Alors aujourd'hui, je ne vous ai pas ramené des tartes citron, je vous ai ramené des petits bounty.
Ah oui, c'est au citron ça?
Des bounty, façon de parler. En fait, c'est des petites barres chocolatées, chocolat noir avec coco et citron vert.
À l'intérieur, hein, mais c'est vous qui faites ça ?
C'est nous qui faisons ça.
Il y a même écrit Jeffrey Cagne dessus.
C'est
donc
ça, c'est ça.
Elles sont un peu lourdes, il y a quoi dedans ?
Alors, il y a de la coco. Et en fait, on met un petit confit de citron très acidulé.
Julia a l'air de kiffer, en tout cas.
Ah ouais, c'est hyper bon.
Ah oui, c'est bien la première fois que je l'avais goûté un truc, celle-là.
C'est Sophie Brafman.
Sophie Brafman, elle a dit citron, elle dit ouf,
c'est très sucré. Je vais essayer derrière les soutiens-gorge.
C'est ça. Et c'est quoi vos adresses coup de cœur, justement, pour trouver une belle tarte au citron?
Alors, j'ai une adresse coup de cœur qui se trouve à Paris, donc rue Saint-Jacques, Sébastien Desgardins. Alors, on ne parle pas souvent de lui, mais c'est une super adresse. Donc, je vous conseille d'aller. En tout cas, moi, j'adore sa tarte citron. J'ai un vrai truc avec la tarte citron parce que c'est le dessert préféré de ma maman.
Qu'est-ce qu'elle a de plus, celle-là? Dont vous nous parlez.
Eh ben, en fait, elle a un sablé juste comme il faut, très sablé, noisette, avec une touche de fleur de sel, et on a un crémeux citron qui est juste comme il faut. Donc, il n'y a pas de fioritures, ça sert à rien, le citron pour le citron.
C'est quoi pour vous la tarte au citron idéale? Pas trop sucrée, comment vous la définiriez?
Alors, j'aime la tarte citron quand elle n'est pas trop sucrée, avec un bon sablé bien croustillant. Et j'aime pas la meringue justement parce que je veux qu'on ne sente que le citron. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a multitude de citrons. On a des citrons yuzu, kombawa, on a citron jaune, citron vert, citron de menton. On a une multitude de citrons.
Et ils n'ont pas tous les mêmes goûts, hein, c'est pas ça? Parce qu'on pourrait croire, bon, moi je vois citron vert, citron jaune, on va dire, mais après, je ne vais pas dans le détail forcément. Un citron de menton, il n'a pas le même goût qu'un citron.
Non, il est beaucoup plus doux. Son zeste aussi, parce qu'on utilise aussi le zeste.
D'où l'intérêt de les avoir bio quand même, les citrons, non?
C'est vrai. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'huile essentielle dans le citron, ou l'orange, ou les agrumes. Et c'est pour ça qu'on récupère le zeste pour.
Moi, j'utilise une microplane, enfin, c'est ça, non?
C'est exactement ça. On devrait tous avoir ça chez soi.
Alors, comment on peut décrire une microplane?
Julia, pourtant, elle a fait quand même
une émission dans laquelle je pense qu'on doit l'utiliser, voilà. Hein, il me semble.
Bah ouais, mais j'ai essayé, ça m'est passé.
Comment vous décrivez? Ça ressemble à un gros bâton, hein, ça zeste.
Le truc en fer là,
et on croque le citron.
C'est une râpe à citron, mais parce qu'en
fait,
Mélanie a donné la marque.
Ah oui, pardon, je devrais pas, mais c'est ça. C'est une râpe un peu longue en fer, effectivement. Il y a plusieurs marques, de toute façon.
C'est ça.
Bon, c'est très bon ce que vous faites, Jeffrey.
C'est vrai. C'est gentil.
Laissez-moi vous dire que j'apprécie beaucoup
douceur. Coco.
Pourquoi? Parce que justement, c'est très équilibré. Il n'y a pas trop de sucre et c'est très très bon, vraiment.
Qu'est-ce que vous conseillez pour bien utiliser justement les agrumes dans la pâtisserie? C'est quoi vos conseils principaux, on va dire?
Alors, par exemple, on va prendre l'orange. Et l'orange, en fait, ce qu'il y a de bien avec un agrume, c'est qu'on peut utiliser tout. C'est ce que je disais avec la râpe notamment. C'est que une orange, par exemple, on peut l'utiliser entièrement en la faisant blanchir 5 fois dans l'eau.
5 fois quand même,
cinq
d'accord.
Fois, parce qu'en fait, on va enlever toute l'amertume et après, avec un tout petit peu de sucre, un peu de vanille, on fait une compotée d'orange. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'agrume, il y a une multitude de recettes qu'on peut utiliser. On peut utiliser que le jus.
On jette que les pépins, quoi, hein, c'est tout.
Il n'y a que les pépins.
C'est ça.
Et des fois, on a de la chance, il n'y a pas de pépins.
Il n'y en a pas beaucoup. Ouais.
Mais c'est ce qui est pratique dans les agrumes. C'est souvent boudé. Les agrumes dans la pâtisserie.
Ma grand-mère, elle faisait sécher l'orange, enfin toute la peau, pour faire du riz au lait. Hein. Elle faisait sécher ça dans son petit cajibi, une sorte de cajibi. Elle avait partout, ça sent très très bon là-dedans.
Ça sent très bon. Et en fait, aujourd'hui, on a des machines qui sont des déshydrateurs de fruits ou d'herbes. Et il suffit juste de mettre des lamelles d'orange pour pouvoir garder tous les arômes de l'orange et de les mettre dans une boisson ou même pour un cocktail ou même dans du riz.
Et Jeffrey, dites-moi, vous avez une petite recette facile à nous proposer pour faire une tarte au citron maison?
Alors, ce n'est pas une recette de tarte au citron parce que ça serait un petit peu long. On va parler d'un cake à l'orange.
Ah, c'est très bien, ça me va. Voilà. Je pense que c'est mieux pour Julien, hein, parce que cake, c'est facile.
Tarte citron, il y a un peu trop de manipulation.
D'accord,
on va éviter.
À la fin de l'année, quand vous aurez le niveau, quand je serai guéri.
C'est ça. Voilà, on va faire ça comme ça.
Alors, le cake à l'orange, c'est
alors,
ça aussi?
Le cake à l'orange, on va avoir 200 g de farine, 150 g de sucre, 5 g de levure chimique, 4 œufs, 100 g de beurre fondu, et c'est tout simple en fait. Vous mettez le sucre avec les œufs, vous battez légèrement afin de les blanchir. Ensuite, vous ajoutez la levure chimique mélangée à la farine et vous finissez par le beurre fondu avec un zeste d'orange. Vous mettez ça au four à 170 degrés pendant 25 minutes. Vous récupérez le jus de l'orange et vous badigeonnez de jus d'orange à la sortie du four et vous avez un cake à l'orange juste magique.
Génial. Tout simple, franchement, c'est exceptionnel.
C'est
ça. À l'orange, c'est vrai que moi,
on peut faire la même
souvent.
Chose au citron ou pas?
Exactement la même recette. avec tous les agrumes, le pamplemousse, le citron.
Wow. Bonne idée, dire le cake au pamplemousse, c'est très chic.
Moi, j'aime pas trop le pamplemousse, mais c'est bon en dessert parce que c'est un côté un peu amer, là, pour le coup.
En fait, c'est toujours pareil, l'amertume, vous le retirez.
En blanchissant 5 fois.
Non, on va pas dire ça, mais avec le sucre, généralement. Mais après, c'est ce qui est bon aussi dans le pamplemousse. S'il n'était pas amer, ça ne ferait pas un pamplemousse.
Mais vous voyez, j'aurais jamais imaginé que noix de coco citron, c'était un beau mélange. Mais en fait, c'est ça, c'est ce que vous racontez. C'est qu'il y en a rien qui compense l'autre, en fait.
C'est ça.
Mais c'est
ça.
Magnifique.
Tout est question d'équilibre.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. Nos trois chroniqueurs sont toujours à nos côtés dans ce studio. On a appris juste avant à cuisiner les agrumes et on a fait le plein de vitamines. Du coup, on a une pêche d'enfer pour vous écouter, Sophie Braffman. On va parler de dessous.
Elle aussi doit avoir la pêche parce qu'elle s'est engouffrée le bounty coco.
J'ai quasiment fini, mais bon, je me suis dit là pour la chronique, je vais arrêter un petit peu quand même, histoire de pas finir totalement m'étrangler avec mon bounty. Mais
surtout qu'on va enfiler des dessous là maintenant.
C'est hyper bon. Alors, on va parler d'Octobre Rose, les filles. Et le garçon d'ailleurs, comme vous le savez, c'est le mois d'Octobre Rose et puis Europe 1 est très concerné aussi par le sujet. Alors une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein aujourd'hui et ce que j'ai trouvé bien et intéressant, c'est de voir à quel point la mode, elle aussi, a priori futile mais pas toujours, reprend le sujet. Alors vous allez comprendre, on va parler de ces marques de lingerie qui s'engagent aux côtés des femmes, mais notamment aussi dans les maisons de couture et auprès des créateurs, créatrices. Alors Stella McCartney, figurez-vous, a fait une vidéo extrêmement amusante avec les acteurs, vous savez cette série Sex Education,
oui,
qui cartonne,
voilà,
sur
Netflix.
Qui cartonne. Et donc la série, elle l'a fait en partenariat avec Netflix. En fait, c'est une petite vignette pour inciter les femmes à se dépister. En fait, en gros, à se palper, ce qui peut éviter de laisser s'installer ou du moins de débusquer à temps un cancer du sein. Alors, elle est super parce qu'elle est en présentatrice un peu vintage, genre années 80. On la voit dans un vieux poste hyper choucrouté. Et vous savez, c'est une végane convaincue. Donc, en fait, elle s'adresse à une classe de mômes. Ce sont les acteurs de la fameuse série. Et elle est là avec ses fruits, ses trucs. Et puis, à la fin, elle finit par palper deux énormes pastèques. Bon, voilà, je vous dévoile pas tout le truc, mais franchement, c'est très amusant et on voit à quel point il y a des messages à faire passer, les gamins rebondissent, comprennent. Et donc je me dis, c'est bien aussi de dédramatiser un sujet qui est suffisamment
grave. Regardez, on avait les agrumes de Jeffrey il y a deux minutes, les oranges, les citrons,
voilà,
les pastèques avec Sophie Braffman.
Exactement, on a les pastèques. Et donc j'ai l'impression aussi que la parole sur le sujet s'est pas mal libérée, ce qui est vraiment une bonne chose. J'ai rencontré moi d'ailleurs une influenceuse qui s'appelle Émilie Dodin et qui a créé un blog, alias donc The Brunette sur Instagram. Elle a créé un podcast qui s'appelle Triple Négatif, puisqu'on lui a décelé un cancer du sein. Voilà, elle est aujourd'hui en rémission, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'avantage de ce podcast, c'est qu'elle vient en aide et elle donne plein de conseils justement aux jeunes femmes, parce qu'elle est très jeune, elle a une trentaine d'années, à qui ça arrive comme elle et qui ne savent pas, voilà, qu'on est toujours un peu démunis forcément quand on apprend ce genre de nouvelles. Et donc je lui ai demandé quelle importance la lingerie revêtait pour elle.
La lingerie, elle est importante à ce moment-là quand on découvre qu'on a un cancer du sein parce que ça touche beaucoup à notre intimité. Et on a besoin d'avoir une matière confortable, de se sentir bien et de ne pas se sentir, je pense, différente des autres femmes qui ont leur dessin.
Alors, Émilie a subi une mastectomie, on reviendra là-dessus aussi, mais je trouvais ça important justement ce message, et c'est là-dessus que les marques aujourd'hui s'engagent, de voir à quel point on a envie d'une jolie lingerie, pas d'une lingerie médicale, parce que du coup, ça nous fait rentrer encore plus dans cette maladie dans laquelle de toute façon on est déjà, et on a envie d'avoir une lingerie exactement comme les autres. Alors du coup, je lui ai demandé aussi, est-ce qu'il y avait des matières à absolument éviter ?
Les matières à éviter absolument, je dirais tout ce qui va être dentelle. Moi, quand j'ai eu ma mastectomie, c'est ce qui m'a énormément gratté. Garder en fait des sous-vêtements dans lesquels on est confortable. Je donne comme conseil aux marques de vraiment choisir des matières qui soient en coton ou très douces à porter, un peu élastiques aussi, qu'on puisse enfiler facilement. Des fois, du coup, des ouvertures sur le devant, où on puisse aussi y glisser une petite poche. Par exemple, c'est une lingerie qui peut être mixte, classique ou mastectomie. Pouvoir glisser en fait une petite prothèse dedans, c'est pas mal, je pense.
Alors, donc, comme le dit Émilie, effectivement, les matières sont hyper importantes à ce moment-là. Donc, je vous ai ramené quelques...
Mais oui, il y a des culottes, il y a des beaux soutiens-gorge sur la table.
Exactement. Alors, c'est super beau. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les marques jouent le jeu. Avant, il n'y avait que des soutiens-gorge, il y a quelques temps encore. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire une parure complète. Parce que
bah, voilà,
pourquoi
faire,
on aurait une parure des assorties. Alors, je vais commencer avec la première sur le marché. Après, je vous dirai lequel était le coup de cœur d'Émilie. Mais celle-ci, elle m'a paru intéressante, c'est rouge-gorge.
On mettra bien sûr les photos de tous ces jolis sous-vêtements
exactement
sur nos réseaux sociaux.
On va les mettre en photo, mais je vais vous les passer d'ailleurs au fur et à mesure. Monsieur aussi.
Jeffrey, vous avez
le droit.
Vous allez voir. Passer.
Donc, c'est une marque. Alors, j'ai pris à cœur aussi d'avoir des marques assez accessibles, hein, que toutes puissent acheter.
Donc, ça, c'est quoi ce qu'on a?
C'est
rouge, la blanche,
celle-ci.
Là, ouais.
Donc, c'est connu, une parure très connue. Hein. Voilà. Et c'est un des acteurs historiques, notamment, donc déjà en chiffre d'affaires, mais surtout en termes de lingerie, et notamment de ces lingeries destinées à ces femmes qui ont un cancer du sein, suivent un traitement ou une mastectomie. Regardez à l'intérieur,
en fait. C'est tout doux et on peut mettre une petite prothèse si on a envie, effectivement, d'un côté ou de l'autre, ou des deux, d'ailleurs.
C'est ça la particularité et un grand confort, puisque là, il n'y a pas
d'armature. C'est doux, la matière à l'intérieur.
Et ça a été spécialement conçu pour. Et la nouveauté cette année auprès de Rouge Gorge, c'est d'avoir étudié et travaillé la culotte qui allait avec pour que les femmes n'aient pas des parures désassorties, justement, en pareille situation. Alors, il y a la marque qu'on connaît bien qui s'appelle Etam aussi, qui a conçu une gamme qui s'appelle Yes, où là aussi, ils réfléchissent des fois avec des jeunes femmes, des influenceuses qui ont envie aussi de prendre la parole là-dessus pour le choix des matières. Donc, comme vous pouvez le voir, alors, c'est un modèle qui ressemble, je ne sais pas si vous connaissez ce terme,
c'est
une bralette.
Une bralette,
c'est quoi la bralette?
Je ne connais pas la bralette.
Vous connaissez la bralette?
Eh
ben, ça s'appelle, alors c'est un petit mélange. Non. Philippine connaît la bralette.
Oui.
Je sais qu'elle connaît la bralette. C'est un mélange entre le soutien-gorge et le top crop. Vous savez, c'est des modèles qu'on porte un peu dessus-dessous.
C'est joli.
Voilà, c'est très joli.
Avec un petit chemise, un truc ouvert, une petite veste, ou je ne sais pas quoi.
Bon,
moi, je ne le mettrais pas, mais je sais que ça va très bien. Julia, ça vous irait bien.
Non, Philippine, elle a le ventre plat.
C'est plutôt pour vous, Philippine.
Voilà, c'est ça. C'est pour les femmes qui sont à l'aise pour montrer leur ventre. Voilà, on a vraiment la parure qui ressort. Alors, elle m'a beaucoup parlé, Émilie, de la gamme Chantelle aussi, qui est très engagée auprès des femmes justement qui ont eu un cancer du sein. Et là, eux, ils ont sorti une collaboration qui s'appelle donc Day to Night. Et là, quand vous achetez ces parures, eh bien, il faut savoir qu'il y a une somme d'argent aussi qui va être versée dans le cadre d'Octobre Rose, en l'occurrence 4 euros par parure. Donc c'est aussi une façon pour d'autres femmes de faire une bonne action et puis voilà, d'avoir une jolie parure. Donc je vous donne ces dernières parures-là. Donc,
tout est très joli. Franchement, on ne verrait pas la différence entre des parures pour adapter à des femmes qui ont eu un cancer, une mastectomie ou des parures classiques.
Voilà.
Franchement, c'est aussi sensuel que ce qu'on pourrait acheter dans n'importe quelle situation.
L'idée, c'était vraiment ça, et c'est ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'en fait, la féminité en prend déjà un coup, potentiellement pour certaines en plus, il y aura une ablation. Donc du coup, l'idée, c'est d'avoir les parures, les mêmes parures que toutes les autres femmes, et d'avoir ça dans des marques
accessibles. Franchement, vous qui connaissez pas grand-chose en sous-vêtements, parce que, enfin, moins que nous, en tout cas, en soutien-gorge, c'est joli, non, franchement.
C'est très beau.
Regardez,
très,
et là, c'est Tissaya. Alors ça, c'est carrément disponible en grande surface, puisqu'on parle de la marque de prêt-à-porter des enseignes Leclerc. Donc on est sur du tout petit prix, et là, c'est pareil, il y a une somme aussi qui est reversée à la Ligue contre le cancer. Donc je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui de nombreuses marques s'y mettent et notamment des marques grand public.
Merci beaucoup Sophie pour cette belle chronique qui met à l'honneur ces combattantes, ces femmes courageuses touchées par un cancer du sein mais qui ont évidemment le droit, on l'a compris, et c'est possible aujourd'hui de chouchouter leur féminité. Heureusement que les marques de lingerie s'y mettent, on est ravis. Bon, à présent, je ne sais pas vous Julia, mais moi je me boirais bien un petit café.
Merci,
non,
si, ça me ferait du bien ça.
Allez Philippine, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce secteur? Alors c'est à vous.
Bon, alors déjà avant de commencer, petite question, même primordiale, d'ordre politique pour ceux qui boivent du café autour de la table. Comment le buvez-vous?
Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller.
Alors, comment? Est-ce qu'il boit du café déjà?
Moi, long à l'américaine. Enfin, vraiment,
ouais.
Long à l'américaine.
Ça dépend des moments de la journée. Début d'après-midi, un petit ristretto, c'est bon aussi.
Un peu de tout, quoi.
Moi, long et souvent froid.
Ah,
moi aussi, j'ai froid.
C'est
vrai. Vous me demandez, j'ai laissé celui du. Avant l'émission, l'autre jour, à 9h30, j'avais fait un café. Je l'ai bu en sortant à midi.
Un autre goût.
Ah, ouais. Il était vraiment froid.
Et sucré ou non sucré?
Non, sans sucre, toujours.
Voilà, bah, du coup, en tout cas, il y a un truc qui est fascinant avec le café. Qu'on soit en France, là, autour de cette table ou un peu partout dans le monde, c'est quand même un rituel qu'on retrouve systématiquement. Hein. Il y a certaines cultures qui l'ont vénéré le café, d'autres qui l'ont même appelé la boisson du diable. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que quand on pense café, on pense voyage. Bah, c'est vrai, hein. On navigue au Brésil, au Vietnam, en Éthiopie, et puis le reste du monde se l'est quand même très vite approprié. Donc là, on parlait de café allongé, mais il y a la presse française, il y a le filtre nordique, il y a l'expresso à l'italienne, il y a encore le flat white à l'anglaise. En revanche, si vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, mais ces dernières années, il y a vraiment une méthode qui a fait son entrée partout dans tous les foyers, en tout cas dans 80% des foyers
en
France.
What else?
C'est la fameuse machine dite Nespresso.
Oui, mais malheureusement, on connaît, Philippine, les limites de cette machine, les capsules, tout ça, c'est très polluant.
Effectivement, il y a une production monstrueuse de capsules et malheureusement, malgré les systèmes en fait, de collecte et de tri qui ont été mis en place, il y en a beaucoup qui atterrissent noyés dans le reste des déchets et qui ne suivent donc jamais ce cycle. Alors, heureusement, il y a pas mal d'innovations dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les capsules compostables, mais il y a d'autres alternatives dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors, la première, c'est peut-être la version la plus écologique et la moins coûteuse de toutes, en termes de capsules.
capsule, c'est la capsule réutilisable.
C'est plutôt simple d'utilisation, hein ?
Bah oui, je sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemble. En fait, c'est une capsule vraiment en inox. Et comme le café classique, on la remplit, on la tasse et on la referme. Bon, c'est vrai que ça demande un peu plus de travail qu'une capsule jetable. Mais bon, ça reste la meilleure option en termes de prix, de durabilité, de nettoyage et puis évidemment d'impact écologique. Mmh. Et pour les plus bricoleurs, allez faire un tour sur TikTok. C'est pas une blague, c'est viral. Il y a des petits malins qui s'amusent à transformer eux-mêmes des capsules jetables en capsules réutilisables.
Je sais pas si j'y arriverai, mais j'irai jeter un œil en tout cas. Pour ceux qui ont une machine, mais qui cherchent une alternative au café, on fait comment ?
Bah oui, c'est vrai. Il y a plein de gens qui ont cette machine, mais qui n'ont pas forcément envie d'en boire 10 par jour. Et si vous voulez éviter de finir comme Holdaf et Monsieur D dans leur titre.
J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, mais avant.
Voilà, donc si vous voulez éviter cet état de nerf qu'on a peut-être un peu tous connu dans nos vies, bon, il y a aussi des capsules à thé. Capsule Bio, par exemple, est une marque qui en propose. Bon, je sais pas pour vous, moi, les capsules à thé dans les machines à café, ça ne tente pas des masses. En revanche, j'ai repéré une marque qui s'appelle I Am Caps et qui propose 5 alternatives au café. Donc, c'est des alternatives énergisantes, mais qui ont des goûts très originaux. Donc, la marque propose de se faire un matcha chez soi. Donc, c'est cette fameuse poudre de thé vert japonais qui est pleine d'antioxydants. Il y a aussi un goût betterave, curcumin, qui est une épice vraiment prisée dans le monde du bio en ce moment, gingembre et chai. Alors, chai, c'est...
On prendrait bien une petite tasse de betterave, Julien.
Avec plaisir, mais surtout, que je comprenne bien, on peut faire toutes ces boissons avec une machine à café classique,
voilà.
C'est ça ?
Voilà, c'est ça, c'est des capsules. Alors, les capsules, en l'occurrence, sont compostables et les ingrédients sont naturels. Il suffit de la mettre dans votre machine et hop, ça fait une boisson. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un matcha chez vous, mais évidemment. C'est hyper compliqué, il faut le petit fouet, il faut le bon dosage, il faut la bonne température. C'est pas pour rien qu'on les retrouve généralement dans des cafés à des prix assez élevés, c'est bien parce que c'est compliqué. En conclusion, s'il vous reste des capsules jetables, surtout gardez le marc de café, on ne le dit jamais assez, c'est top dans la maison, hein, ça enlève les odeurs dans le frigo, enlève aussi les odeurs sur les mains. Dans la salle de bain, c'est super en gommage ou en masque anti-cerne, et dans le jardin, ça repousse même les limaces et ça sert d'engrais. Bon, et puis finalement, que votre approche du café soit douce et matinale.
Du jasmin qu'il tenait dans ses mains au café des délices.
Ou plutôt festive.
Et ça fait zumba café au carnaval, je suis dans le carnaval.
En tout cas, il y en a pour tous les goûts et je sens qu'on en reparlera ici.
Oui, j'adore vos sons, ça fait plaisir. Merci Philippine, merci à tous les trois pour ces bons plans mode et art de vivre et ces conseils culinaires. C'était un très beau menu avec vous trois aujourd'hui. Bien fait pour vous, touche à sa fin, c'est aussi la fin de la semaine. Alors on vous donne rendez-vous lundi à 11h pour une nouvelle émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et Mélanie, lundi, qu'est-ce qu'il y aura au programme ?
Eh bien Julien, on va se poser cette question. Les produits naturels, vous savez, pour se laver, se maquiller ou faire le ménage, tout ce qui est du fait maison notamment. Sont-ils réellement efficaces ? On partagera avec vous quelques recettes green, bio, testées et approuvées, bien sûr. En gros, on prend soin de nous et de la planète lundi.
Et puis lundi, Mélanie, il y aura aussi de nouveaux sujets tendance, de la santé et toujours bien sûr de la gastronomie avec des recettes accessibles à tous. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21.